Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce mercredi 13 octobre et à la une, un soldat du 4e RCH a perdu la vie hier au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Le maréchal des logis Adrien Quélin est décédé accidentellement à Tombouctou. Jean-Baptiste Lemoyne assisteront demain. Le secrétaire d'État en charge du tourisme inaugurera le congrès des maires. Il est attendu autour de la question des stations de ski et des modalités d'ouverture. Des éleveurs sur des tabourets, cordes autour du cou, mais aussi des bougies. C'est une manifestation d'ampleur qui s'annonce vendredi devant la préfecture des Hautes-Alpes à Gap à l'appel de la FDSEA PACA et des JA. Une mobilisation alors que le préfet et coordonnateur du plan Loup doit recevoir les organisations professionnelles. Le parcours du Tour de France 2022 dévoilé demain à Paris et il devrait confirmer le retour de la Grande Boucle dans les Hautes-Alpes. On fait le point en fin de journal avec Christophe Lourenço. Un soldat du 4e RCH a perdu la vie hier au Mali alors qu'il était en mission dans le cadre de l'opération Barkhane. Le maréchal des logis Adrien Quélin est décédé accidentellement sur la plateforme des Airolais à Tombouctou. Cyrielle Cavamichard.
Né à Hermont, dans le département du Val-d'Oise, le maréchal des logis Adrien Quélin avait accompli toute sa carrière au sein du 4e régiment de chasseurs de Gap. Il s'était engagé en juillet 2013 comme volontaire de l'armée de terre. Adrien Quélin s'était alors distingué par son excellent état d'esprit lors de sa formation initiale. Il avait été affecté au peloton maintenance régimentaire à l'escadron de commandement et de logistique. De juillet à septembre 2014, il avait effectué sa première mission en Centrafrique dans le cadre de l'opération Sangaris comme mécanicien mobilité terrestre. Un an plus tard, d'octobre à décembre 2015, il part en mission sur le territoire national, c'est dans le cadre de la mission Sentinelle. Il est ensuite projeté au Mali de mai à octobre 2016 comme mécanicien mobilité terrestre. Il avait intégré l'école des sous-officiers et avait été nommé en décembre 2016 maréchal des logis. De juin à novembre 2019, il part de nouveau comme mécanicien au 43e bataillon d'infanterie de marine au sein des forces françaises en République de Côte d'Ivoire. Et depuis juillet, il était de nouveau projeté au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane. Adrien Quélin opérait au sein du groupement tactique Désert Roc Noir de la force Barkhane. Ce mardi, ce mécanicien de 29 ans effectuait une opération de maintenance sur un camion lorsqu'un accident s'est produit à Tombouctou. Il a été grièvement blessé par la bascule de la cabine du camion alors qu'il travaillait sur le moteur du véhicule. Pris en charge immédiatement, il n'a pu être réanimé. Le maréchal des logis Adrien Quélin était décrit comme technicien aguerri, fin pédagogue et aimant transmettre son expérience.
Merci Cyrielle. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès. Depuis le début de l'opération Barkhane, ce sont 6 militaires du 4e RCH qui sont décédés, dont 5 au combat. Lors de l'accident en vol de 2 hélicoptères en novembre 2019, le capitaine Romain Chaumel de Jarnieu, 34 ans, et les maréchaux des logis Alexandre Protin, 33 ans, Antoine Serre, 22 ans, Valentin Duval, 24 ans, avaient péri aux côtés de 9 autres soldats français. Engagé dans l'opération Barkhane au Mali, l'adjudant Émilien Mougin était décédé au combat le 21 février 2018. Une femme a été retrouvée morte à Castellane. C'est un témoin qui a donné l'alerte ce matin vers 10h30 au hameau La Rivière alors que la victime était coincée sous un quad. 8 pompiers ont été mobilisés, tout comme l'hélicoptère du Choucas 04 avec 2 pompiers et un médecin du SAMU. Selon les premiers éléments, la victime âgée d'une quarantaine d'années serait décédée depuis plusieurs heures. Un homme découvert mort peu avant midi ce mercredi à Perruyer au niveau de la zone artisanale de la Cassine. Il s'agirait selon les premiers éléments d'un suicide par arme à feu. 4 pompiers de Perruyer ainsi que le SMUR de Sisteron ont été mobilisés mais n'ont pu que constater le décès de cet homme âgé d'une soixantaine d'années. Une dizaine de gendarmes mobilisés depuis 16 heures pour retrouver un homme, secteur de Saint-Étienne-les-Orgues, Reveste-Saint-Martin. Parti aux champignons ce mercredi, la famille de cet octogénaire est sans nouvelles depuis la mi-journée. Un maître chien du PGHM de Josier a été envoyé sur place. Et puis un incendie a eu lieu à Embrun à 12h46. Le sinistre s'est déclaré à l'entrée de la commune sur un établissement recevant du public de 80 mètres de long et de 20 mètres de large. La toiture s'est embrasée. 50 pompiers ont été rapidement mobilisés sur place. Des moyens conséquents du fait du risque de propagation à une station-service toute proche. 3 commerces ont été impactés, 3 appartements détruits. Un locataire a été pris en charge par les pompiers, très choqué. Dans l'actualité également, Jean-Baptiste Lemoyne est attendu demain sur le territoire basalpin. Le secrétaire d'État en charge du tourisme sera à Sisteron alors que s'ouvre le congrès des maires. Jean-Baptiste Lemoyne qui est attendu autour de la question des stations de ski. Il y a quelques jours, le ministre avait rassuré les socioprofessionnels lors du congrès des domaines skiables de France en assurant que les remontées mécaniques seront ouvertes. Oui, mais comment ? C'est la question que lui posera Daniel Spagnou, président de l'AMF 04 et maire de Sisteron. Autre inquiétude de l'édile, le statut des maires. Après la démission du maire de Montier-Almont, Frédéric Robert, se pose la question de l'épuisement des élus locaux, Daniel Spagnou.
Nous, on lance un appel pour qu'enfin on ait un statut convenable. C'est pas normal non plus que des jeunes maires soient obligés de quitter leur travail, soient obligés de venir des heures et des heures dans leur commune pour des indemnités minables. Qu'on puisse aussi avoir un jour une retraite convenable. Vous vous rendez compte? Moi, bon, maintenant, je suis retraité depuis longtemps, mais je fais mes 12 heures par jour quand même. S'il fallait que la commune, bien sûr, rémunère un haut fonctionnaire qui soit là 12 heures par jour, y compris les week-ends, parce qu'il faut savoir aussi que les maires, c'est surtout le week-end qu'on est présent, parce que c'est le week-end qu'il y a des manifestations. Donc, je crois qu'il faut revaloriser très vite les indemnités, et surtout faire en sorte qu'on ait un statut convenable, de négocier avec l'Association des maires de France.
Une interview à retrouver dans son intégralité sur alpe1.com. C'est une manifestation d'ampleur qui s'annonce vendredi devant la préfecture des Hautes-Alpes. À l'appel de la FDSEA et des JAPACA, les éleveurs sont appelés à se réunir à 10h pour exprimer le désarroi et les attentes des éleveurs de notre région. Une mobilisation alors que le préfet coordonnateur du plan loup doit recevoir les organisations professionnelles. Symboliquement, des dizaines d'éleveurs s'installeront sur un tabouret corde au cou pour symboliser pacifiquement leur ras-le-bol de l'extrême précarité de leur situation. Fin de citation. Des bougies seront également installées pour, je cite, « rappeler le nombre d'animaux prédatés dans le département ». Les syndicats qui demandent de réelles solutions comme un accès simplifié aux tirs de défense et de protection avec la possibilité d'utiliser des fusils à visée nocturne mais aussi la prise en compte des chiens de protection dans le droit rural ou encore une réduction des délais de paiement des aides liées aux moyens de protection. Une mobilisation dans un contexte tendu alors que le délibéré est attendu le 18 octobre à Gap dans le procès d'un éleveur de Seillac dont les chiens avaient mordu des randonneurs durant l'été. 2 mois de prison avec sursis, 1 150 € d'amende avaient été requis par le procureur de la République. Les syndicats craignent que cette décision ne fasse jurisprudence. Dans ce journal, on se penche sur cette initiative de Codicée à Gap, la création d'une coopérative éphémère féminine. Car le constat est le suivant, selon cette coopérative, les femmes se mettent souvent plus de freins. À travers cette 3e édition, des femmes de tous horizons vont se réunir pour ensemble monter une entreprise éphémère en 9 jours. En 2019, 7 femmes avaient créé une coopérative de production de sacs à vrac. En 2020, c'était une biscuiterie qui avait vu le jour, le temps de l'opération. Cette année, cette coopérative éphémère se déroulera du 19 novembre au 2 décembre. Audrey Roussel est en charge de l'accompagnement des entrepreneurs dans la coopérative Codicée. Elle est co-animatrice du dispositif de coopérative éphémère féminine.
En 9 jours, on va créer une entreprise collective, sous forme coopérative, qui sera hébergée par Codicée. On passe en 9 jours par toutes les étapes de la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'on construit son offre, on crée une marque éphémère, on construit sa stratégie marketing, son plan de communication, on produit. Sur une journée et on vend ses produits lors d'une ou de plusieurs ventes et enfin on fait la comptabilité de l'activité, on calcule les bénéfices et à la fin on fait un bilan avec les participantes pour la suite de leur parcours. Le champ de la création d'entreprise est tellement vaste, il y a tellement d'acteurs et tellement de choses à faire que là c'est pour balayer un peu tous les aspects qui vont pouvoir nous guider dans le montage de notre projet individuel par la suite.
Si vous souhaitez participer à cette coopérative, il est nécessaire de s'inscrire à une réunion d'information le 19 octobre à 9h30 et le 22 octobre à 14h. Les coordonnées sont à retrouver sur alpe1.com. En bref, le projet de réhabilitation du Fort des Têtes à Briançon est abandonné. Dans un post publié sur les réseaux sociaux cette semaine, Ludovic Arnaud, le PDG de Next, explique s'être résolu à abandonner le projet de réhabilitation face à la, je cite, « cupidité » et l'obstination du nouveau maire. Il indique qu'une procédure est en cours devant la justice. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, il demanderait 36 millions d'euros de réparation de préjudice. C'est la semaine de l'intégration des étrangers primo-arrivants. Dans les Alpes de Haute-Provence, le dispositif LIFE à Digne-les-Bains a été présenté hier. Car pour être intégré, il faut être formé, explique Paul-François Chira, secrétaire général de la préfecture, au micro de Michel Bonnefoy.
C'est un dispositif très intéressant parce qu'il permet en fait de faire le lien entre toutes les associations partenaires qui offrent des prestations de formation linguistique et professionnelle pour les réfugiés et ce qu'on appelle les primo-arrivants, c'est-à-dire les personnes qui sont en situation régulière sur le territoire national et qui ont vocation à s'y intégrer, comme je le disais tout à l'heure, à les mettre en relation avec ces personnes-là, ces réfugiés, ces primo-arrivants. L'objectif, c'est que trop souvent, on a une offre de formation qui est brute, et qui ne vient pas s'adapter aux besoins de chaque personne qui arrive sur le territoire. L'objectif de cette plateforme LIFE, c'est justement de mettre en lien et d'adapter l'offre de formation aux besoins réels du territoire, et donc de faire le lien entre les structures qui connaissent les réfugiés et les primo-arrivants, et celles qui offrent des formations.
Et notez que la préfecture des Hautes-Alpes organise également plusieurs événements, comme des portes ouvertes au centre provisoire d'hébergement France Terre d'Asile à Gap demain, ou encore la rétrospective sur la journée mondiale des réfugiés du 20 juin au centre social de Vennes. Ce sera ce vendredi.
Alpe 1 Sport.
Le peloton du Tour de France n'aura pas longtemps boudé les routes aux Alpines après seulement un an d'absence avec une édition 2021 qui a contourné les Hautes-Alpes. La présentation du Tour demain matin au Palais des Congrès à Paris devrait confirmer le retour de la grande boucle sur le département. Un retour qui devrait avoir des airs du Tour de France 1986. Christophe Laurenceau.
Avec un départ donné à Copenhague le 1er juillet pour trois étapes en terre danoise et la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées le 24 juillet, cette édition 2022 du Tour de France refait la part belle aux Hautes-Alpes qui a eu l'honneur d'avoir eu 14 villes étapes différentes et 21 cols ou côtes franchis depuis 1947. Dans la lignée de la redécouverte de la montée d'Orsières-Merlette en 2020 avec la victoire de Primoz Roglic, les organisateurs devraient offrir les mêmes honneurs au col du Granon le 13 juillet prochain. Perché à 2404 mètres d'altitude, l'ogre du Briançonnet, avec ses 11,5 km à 9,3% de moyenne, n'a été gravé qu'une seule fois dans l'histoire de la Grande Boucle. Une arrivée au sommet en 1986 qui a couronné l'Espagnol Eduardo Chozas avec 6 minutes d'avance sur le futur vainqueur, Greg LeMond, qui reprenait alors le maillot jaune à son coéquipier et quintuple vainqueur du Tour, Bernard Hinault. Un duel franco-américain qui devrait une nouvelle fois être mis à l'honneur à l'occasion du 14 juillet avec une étape Briançon-Alpes d'Huez. Ce tracé n'a été emprunté que deux fois, mais le plus légendaire est sans conteste celui, encore une fois, de 1986, qui avait vu le passage sur la ligne des deux champions main dans la main. Une idée qui aurait été soufflée à l'époque par Bernard Tapie, récemment disparu, qui était alors patron des deux coureurs de la formation La Vie Claire. La victoire était ainsi revenue au blaireau, mais le jaune était conservé par le Californien, qui allait devenir le premier Américain vainqueur du Tour de France.
Merci Christophe.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.